Bonsoir et très content de partager, de faire ce partage avec vous. Nous sommes toujours dans la suite de la mission des apôtres et ce soir, il m'a été demandé de parler spécifiquement de la mission des 12, des apôtres. Je vais donc très rapidement vous lire un passage. Là, je prends Luc 9, versets 1 à 6. De l'Évangile selon saint Luc. Ayant convoqué les 12, Jésus leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les malades pour les guérir. Et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent, n'ayez pas non plus chacun de tunique. En quelques maisons que vous entrerez, demeurez-y et partez de là. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Étant partis, ils passaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Voilà circonscrit la mission telle rapportée par Luc. La lettre aux Éphésiens nous présente déjà l'Église comme une construction édifiée sur la fondation des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire est le Christ lui-même. Dans l'Apocalypse, le rôle des apôtres, et plus spécifiquement des 12, je peux rappeler, ce rôle est mis en lumière dans la perspective eschatologique de Jésus lui-même. De ces 12, nous ne connaissons pas grand-chose d'eux, en dehors de quelques-uns qui sont très en vue. Déjà selon le récit de Marc et de Matthieu, ensemble, le cadre de l'appel des premiers apôtres et le lac de Galilée. Jésus a depuis peu commencé sa prédication du règne de Dieu lorsque son regard se pose sur deux paires de frères. J'ai cité Simon et André, Jacques et Jean. Ce sont des pêcheurs occupés à leur travail quotidien, ils jettent les filets, les préparent. Mais une autre pêche les attend. Jésus les appelle avec décision et ils le suivent aussitôt. Désormais, ils seront pêcheurs d'hommes. Là, ils basculent. Pêcheurs de poissons, pêcheurs en même temps de notre état, pêcheurs de poissons par leur métier, ils deviennent pêcheurs d'hommes. Jésus leur confie déjà une autre mission qui va les bouleverser, qui va les transformer. Et Luc, tout en suivant la même tradition, fait un récit plus élaboré. Déjà, on l'avait vu dans la pêche miraculeuse, Luc 5, 1 à 11. Il montre le chemin de foi des premiers disciples en précisant que l'invitation à se mettre à la suite de Jésus leur est faite après avoir écouté sa première prédication et fait l'expérience des premiers signes prodigieux accomplis par lui. En particulier la pêche miraculeuse, qui constitue le cadre immédiat et offre le symbole de la mission de pêcheurs d'hommes qui leur a été confiée. Le destin de ces appelés sera désormais intimement lié à la mission du Christ lui-même. L'apôtre est un envoyé, mais plus encore, l'apôtre, c'est un expert de Jésus. Alors, déjà aujourd'hui, sachons que chacun de nous, comme missionnaire, nous sommes des experts de Jésus parce que nous allons porter quelque chose d'essentiel, de spécifique que nous avons déjà reçu de notre baptême, cette mission de l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Et c'est précisément cet aspect qui est mis en évidence par l'évangéliste Jean dès la première rencontre de Jésus avec les futurs apôtres. Ici, le cadre est différent. La rencontre se déroule sur les rives du Jourdain. La présence des futurs disciples, venus eux aussi comme Jésus de Galilée pour vivre l'expérience du baptême administré par Jean, ici il s'agit de Jean Baptiste, apporte ce baptême une lumière sur leur monde spirituel. C'était des hommes qui attendaient le règne de Dieu, désireux de connaître le Messie, dont la venue était annoncée comme imminente. Et l'indication de Jean le Baptiste, qui montre en Jésus l'agneau de Dieu, suffit pour que s'élève en eux le désir d'une rencontre personnelle avec le Maître. Les phrases du dialogue de Jésus avec les deux premiers futurs apôtres sont très significatives. Rappelez-vous, ils avaient posé à Jésus la question de savoir « Êtes-vous le Messie ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus les renvoie en leur disant « Allez annoncer ce que vous avez vu et entendu. » En réalité, allez faire le témoignage ce que vous avez vous-même vécu de ce que je fais. Et à la question « Que cherchez-vous ?» Ces apôtres répondent, les futurs apôtres, ils répondent par une autre question. « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu ?» C'était déjà un bon signe. Et la réponse de Jésus est une invitation. « Venez et vous verrez. » Il voit donc où il demeure et commence à le connaître. En effet, ils ne devront pas être les annonciateurs d'une idée, et nous non plus, nous ne sommes pas annonciateurs d'une idée, mais les témoins d'une personne. Avant d'être envoyés, évangélisés, ils devront demeurer avec Jésus, établissant avec lui une relation personnelle. Et sur cette base, l'évangélisation ne sera autre qu'une annonce de ce qu'ils ont vécu et une invitation à entrer dans le mystère de la communion avec le Christ. Et c'est cette même invitation qui nous est faite. Nous devons entrer en contact personnel avec le Christ. Et c'est pourquoi le moment de rencontre, de méditation, mais beaucoup plus d'adoration, ce silence, ce corps à corps avec le Christ au très fond de soi est très très important. Cette rencontre est très importante, dirais-je. Et Jésus, il y a une autre question fondamentale qui intervient. Mais à qui les apôtres sont-ils envoyés? Déjà au départ, Jésus a circonscrit une zone limitée. C'est bien après qu'il sera envoyé, annoncé, juste après la résurrection. Mais au départ, l'annonce devrait se limiter dans les contours de Jérusalem. Ces 12, Jésus les envoyait donc en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cette limite a donné également lieu à des interprétations, parce qu'il y a eu des exégètes qui ont dénoncé cette mission spécifique, parce que pour eux, pourquoi est-ce que dès le départ, Jésus n'a-t-il pas envoyé les apôtres partout pour annoncer au-delà des limites même de Jérusalem? Et vous verrez que dans la description qui est faite par Matthieu, Marc et Luc, il y a toujours des nuances. Dans les interventions de Luc, il y a toujours cette vue universaliste des choses. Il a tendance à élargir, et cela, vous verrez dans l'appel notamment des apôtres, rentre en compte également déjà la personnalité même de tout un chacun, mais également leur appartenance, selon qu'ils soient pharisiens ou publicains, il y a des nuances dans la vision des choses. Mais ainsi les 12 engagés pour participer à la même mission de Jésus coopèrent avec le pasteur, allant avant tout vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cet aspect d'aller vers les brebis est très significatif. Aujourd'hui, nous sommes toujours invités à repenser notre manière même de prêcher, notre manière d'enseigner. Parce que très souvent, nous nous limitons entre nous. Et quand il y a des grandes rencontres, et là je regarde, apparemment, c'est encore entre nous, nous nous retrouvons. Mais la mission est d'aller toucher ceux qui ne sont pas de la bergerie. Et c'est toujours l'objectif. S'il y a un qui vient de la bergerie, il faut rendre grâce à Dieu en ce moment-là. Et c'est la mission qui incombe à chacun de nous. Mais l'invitation du départ va évoluer. La limitation initiale à Israël de sa mission et de celle des 12 en devient ainsi le signe prophétique le plus efficace. Et après la passion et la résurrection du Christ, ce signe sera éclairé. Le caractère universel de la mission des apôtres deviendra explicite. Le Christ enverra les apôtres dans le monde entier. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle du salut. Allez dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que le pape François appelle, il nous envoie d'aller dans les périphéries. De la mission des 12, et vous verrez dans les recherches que vous pourrez faire, ou bien je vous renvoie simplement dans les annotations des actes des apôtres, et vous avez toutes les données, toutes les informations sur ce que deviendra cette mission. Je lis juste un passage très rapidement pour m'arrêter là. Vous serez mes témoins, dit Jésus, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Acte 1, 8. Ici, il y a déjà le caractère universaliste. La mission prend maintenant de l'ampleur, et là, c'est après la résurrection. Il donne d'autres consignes. Ne vous limitez plus, allez au-delà. Et là, ils vont maintenant au-delà du simple cadre. La foi s'implante d'abord solidement à Jérusalem, où la première communauté s'accroît en grâce et en nombre. Puis, bientôt, l'expansion commence. Aujourd'hui, la mission des apôtres saute aux yeux. Voilà de 12. Aujourd'hui, l'Église est partout. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il que nous également, qui prenons le flambeau aujourd'hui à Lyon, continuons à témoigner cette bonne nouvelle, cet héritage. En cette mission, donc la mission continue. Le mandat du Seigneur de réunir les peuples dans l'unité de son amour continue encore et c'est à nous de poursuivre le flambeau. Telle est notre espérance et tel est également notre mandat. Contribuer à cette universalité du salut, à cette véritable unité dans la richesse des cultures, en communion avec notre véritable Seigneur Jésus. Je vous remercie.